entièrement vaccinés contre le COVID-19 aux États-Unis. Et c'est là.
I have a dream. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Bonsoir chers fidèles auditrices et auditeurs de VOA Afrique, bienvenue dans l'Amérique et vous. Ce soir, nous parlons de la transformation des rapports de force aux États-Unis et en Afrique. À la mise en onde, Lionel Lunanilagahima, au micro, Eric Manilakiza. 60 ans après les grandes marches pour les droits civiques des Afro-Américains, une nouvelle génération de militants et de responsables politiques a repris le flambeau autrefois tenu par Martin Luther King. L'acquittement en 2013 du meurtrier de Trayvon Martin, un adolescent noir abattu l'année précédente en Floride alors qu'il n'était pas armé, propage une onde de colère aux États-Unis et donne naissance au mouvement Black Lives Matter, des vies noires comptent. Black Lives Matter a pris la forme d'une organisation d'ampleur nationale, plaçant le collectif avant l'individu et sans réel dirigeant. Elle est présente dans une quarantaine de villes américaines et lutte pour éradiquer la suprématie blanche et mettre fin aux violences policières. Quels sont les enjeux portés par ce nouveau rapport de force? Quel pourrait être l'impact de Black Lives Matter au-delà des États-Unis? Nous en parlons dans un instant. Kanezana Tulia, directrice à Human Rights Watch en charge du plaidoyer en Afrique. Bonsoir Karine.
Bonsoir Eric et bonsoir à nos auditeurs et à mon copanéliste.
Mohamed Modj, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à Manhattanville College à New York. Merci d'être avec nous.
C'est mon plaisir.
Le slogan Black Lives Matter a notamment rythmé les manifestations géantes organisées à travers les États-Unis et dans le monde depuis la mort de George Floyd. Professeur, est-ce que l'Amérique est en train de changer?
Oui, l'Amérique est en train de changer sous divers aspects. D'une part, il y a un réveil de ce qu'on peut appeler la conscience de la marginalisation et de la violence contre les Noirs. Et de l'autre côté, un réveil de la conscience de l'inégalité sociale dont les Noirs sont souvent les premières victimes. Donc ce sont deux choses différentes qui maintenant ont tendance à confluer ensemble et à donc donner plus de vigueur et plus de poids au mouvement de protestation ou en tout cas la tendance à demander qu'il y ait des changements. Effectivement, c'est quelque chose de nouveau dans ce pays.
Est-ce que le monde est en train de changer également?
Oui, le monde est en train de changer parce que la bipolarisation à laquelle on était habitué depuis la Deuxième Guerre est finie. Cela a été remplacé par une sorte de vide, d'hésitation. Donc l'émergence de la Chine et l'effacement, puis le renouveau de la Russie ont créé des points d'ancrage et de division, disons, à l'échelle planétaire. Et le volontarisme individualiste America First de Trump a achevé de perturber, peut-être pas ce qu'on appelle l'ordre mondial, on n'appelle plus l'ordre mondial, mais un peu l'agencement des différents intérêts, le jeu des intérêts, le balancement des intérêts à travers le monde a aussi changé. Et deuxièmement, les réseaux sociaux maintenant sont transfrontières, donc des groupes qui pouvaient s'ignorer durant toute leur existence maintenant peuvent collaborer et participer les uns et les autres à les différentes activités. La levée de fonds est plus facile pour les mouvements sociaux, donc d'être financés par des bonnes volontés. Et la coordination dans la diffusion de l'information fait qu'il peut y avoir des tirs ciblés. Dans une actualité qui est très éparpillée, on voit très souvent qu'il y a des groupes qui vont manœuvrer pour essayer de faire en sorte que l'information soit ciblée sur tel ou tel problème, tel ou tel cas. Effectivement, là aussi, les choses ont beaucoup changé.
Karine, l'Amérique est une société complexe Est-ce que Black Lives Matter peut arriver à influencer un nouveau contrat social?
Je pense que le Black Lives Matter ne peut pas le faire en lui-même, en tant que mouvement isolé, social, bien implanté dans la société. Parce que rappelons-nous, il faut aussi refaire une lecture des événements, des petits ou grands, qui justement ont culminé à produire ce moment dans lequel nous nous trouvons, où des projets de loi sont en train d'être débattus par le Congrès américain quand même, n'est-ce pas? Des projets de loi qui avaient été présentés il y a 20, il y a 30 ans. Ce qui se passe, c'est que vous avez parlé de la mort de Trayvon Martin en 2012, l'acquittement de George Zimmerman. Mais en 2014, il y a Michael Brown qui est tué à Ferguson, au Missouri. Et ce meurtre est suivi par une série de manifestations et une enquête du département de la justice et des efforts consentis par l'administration d'Obama pour faire une étude et faire un rapport. Ce rapport est sorti sur le maintien de l'ordre. Il y a le meurtre de Terrence Crutcher en Oklahoma en 2016 qui amène des organisations internationales comme Human Rights Watch. Nous avons fait un rapport là-dessus. Et il faut se dire que ces événements vont, en plus de la naissance en 2013 de Black Lives Matter, vont stimuler, ils vont provoquer un mouvement qui est composé de Black Lives Matter, mais aussi par des milliers de citoyens et une coalition de plus en plus forte entre des organisations locales et des organisations internationales comme Human Rights Watch. Et en dehors, au-delà des États-Unis, nous avons dernièrement, le 19 mars 2021, à l'Assemblée qui est la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, qui est observée annuellement par les Nations Unies, nous avons le président de l'Assemblée générale, d'ailleurs je pense que c'est l'ambassadeur de Turquie, qui a fait référence justement aux attaques xénophobiques et anti-asiatiques et les discours de haine. Ce ne sont pas des discours que l'on voit souvent. Donc c'est ça, ces impacts, c'est ce qu'on appelle les résultats intangibles en fait, de ce genre de pression sociale. Sans parler, l'année passée, le 19 juin, le Conseil des droits de l'homme à Genève, qui a passé une résolution mandatant le haut commissaire des droits de l'homme aux Nations Unies, Michel Bachelet, évidemment conjointement avec des experts des Nations Unies, de préparer un rapport global sur le racisme systémique et l'utilisation excessive de la force contre les peuples de descendance africaine par les forces du maintien de l'ordre. Donc tout ça, vraiment, nous présente un paysage, un visage d'une collection d'actions, d'une mosaïque d'énergie qui font justement qu'aujourd'hui, ben, on se retrouve avec professeur Mbodj, avec vous, à discuter de ce moment.
Professeur Mbodj, Karine parle de ces différents projets de loi qui sont sur la table du Congrès américain. Mais républicains et démocrates semblent encore loin d'une action commune. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis également. Ce mouvement a du pain sur la planche, ou plusieurs pains sur la même planche.
Oui, d'une certaine façon, le jeu politique américain est très conservateur. Ce sont des hommes d'un âge avancé, souvent d'origine européenne, qui se retrouvent et qui font des deals et qui ensuite annoncent à tout le monde voilà ce qu'on va faire. Et tout d'un coup, ils sont confrontés par des jeunes dont l'apparence est très mélangée. Et en tout cas, il y a une forte coloration dans ce groupe et les Noirs sont en première ligne. Les femmes sont en première ligne et finalement ça perturbe le jeu traditionnel et il sera très difficile au Congrès américain d'une part de suivre le mouvement parce que cela semblerait être une sorte de capitulation, surtout de la part des républicains, et de l'autre côté il sera très difficile de résister à cette masse parce que cette jeunesse-là ne se contente plus de marcher dans les rues, elle va voter, donc elle va avoir des plateformes politiques telles que par exemple la nouvelle représentante de l'État de New York et aussi, comme on l'appelle,
Ocasio-Cortez.
Voilà, Ocasio-Cortez, présenter des plateformes qui vont contredire ou qui vont corriger les plateformes traditionnelles, et l'establishment va devoir faire face à cela aussi. Donc le fonctionnement, disons, huilé des institutions comme ils en avaient l'habitude avec quelques anicroches, ça ne va pas marcher et c'est là où on en est. Et beaucoup de gens pensent que le Congrès américain va rechigner à changer de style et de façon de procéder. D'autres pensent que sous la pression populaire et en particulier sous la pression électorale, il devrait bien changer et on est un peu à cette charnière pour l'instant.
Vous parlez du droit de vote, Karine. On voit dans plusieurs États des lois pour restreindre justement le vote. Est-ce que vous pensez que finalement le vote va pouvoir être un élément essentiel de changement si on ne peut pas voter?
Encore une fois, on parle des États-Unis, donc il y a quand même un appareil judiciaire qui est assez indépendant. Et ce que nous entrevoyons, ce que je pense, c'est que dans certains États, que ce soit Georgia ou ailleurs, nous allons voir, encore une fois, une multitude, en fait, de procès et de recours en justice sur certaines, contre certaines de ces lois. Et il faut aussi se rendre compte, comme le professeur disait, la société américaine est une société complexe, mais c'est aussi une société qui continue et qui multiplie l'impact, les conséquences systémiques et politiques de l'esclavage. Voilà. Et une, justement, des conséquences du prolongement, un prolongement du système esclavagiste, c'est justement ce contentieux au niveau du droit de vote. Mais cela se passe maintenant dans un cadre assez particulier, parce que les États-Unis aujourd'hui font face à une démographie qui change complètement. On parlait d'Ocasio-Cortez, mais c'est ça en fait la démographie politique et sociale qui est en train de changer aux États-Unis. Et la lecture qu'on doit en faire, c'est que justement cette volonté de certains États, et non pas de tous, de justement restreindre le droit de vote de certaines communautés, est un reflète justement le refus d'accepter que l'Amérique d'aujourd'hui est en train de changer, que les États-Unis sont en train de changer. Mais c'est aussi une société dynamique comme toute société. Donc je suis plutôt positive par rapport où est-ce que cela va aller, étant donné l'indépendance du système judiciaire, mais aussi, encore une fois, le dynamisme et la résilience justement de ces groupes de protestation et de pression sociale et politique.
Professeur, comment contourner ces restrictions liées au droit de vote?
Comme notre collègue l'a dit, évidemment les tribunaux vont être mis à contribution, ce qui d'ailleurs va avoir un effet que peut-être les républicains n'envisageaient pas, c'est un peu de garder les marrons au feu pendant longtemps, ce qui fait que ces cas devant la justice ne vont pas se régler d'ici 2024. Il y aura pas mal de recours, d'appel en appel, etc. Et finalement, ça va mobiliser justement cette jeunesse, cette population américaine d'origine non européenne en quelque sorte. Ça va l'intérêt va rester. Le focus, en particulier les journaux et l'information d'une manière générale, vont permettre de garder ce que j'appelle les marrons au feu et faire en sorte que ce problème ne disparaît pas comme ça, simplement par la décision d'une cour de justice quelque part dans le Texas ou en Georgia. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, il y a ce qu'on peut appeler les lois de la nature, le remplacement de la génération actuelle par celle qui est plus jeune et qui fait en sorte que, disons, ceux qui prennent des cas de fer, qui n'acceptent pas que cette société, effectivement, évolue dans le sens où elle veut évoluer, leur poids va se restreindre, va diminuer et en quelque sorte, je vois, et je suis très optimiste moi aussi, et je pense que d'une certaine façon, il y aura dans quelques années une autre façon de faire la politique aux États-Unis, que la vieille garde le veuille ou non, elle sera laissée de côté, soit par des décisions judiciaires, soit par le remplacement démographique, ou simplement la perte de vitesse, de la pertinence de leur plateforme. Donc de ce point de vue-là, je suis optimiste et je pense que cela va changer. Le niveau judiciaire, c'était à son mot à dire, mais ça va changer aussi au niveau de la législation, parce que je pense que le status quo qu'on a actuellement au niveau du Congrès, où fondamentalement on ne veut pas secouer le cocotier, pour utiliser une expression populaire, sera intenable, et en particulier sera intenable pour les démocrates dans la perspective de 2024.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Karine, l'idée panafricaniste qui gagne l'Afrique au milieu du XXe siècle est née d'intellectuels ou d'hommes politiques négro-américains ou caribéens. Voyez-vous une vision sociale et politique au niveau de Black Lives Matter qui peut inspirer l'Afrique?
Je dirais même que la vision de Black Lives Matter a toujours existé. Elle est basée sur une réflexion, une réaction, une impulsion qui a toujours existé depuis de tout temps en Afrique, mais qui plutôt maintenant est en train de s'éteindre. C'est ça en fait. À mon avis, donner. Hein. Ce n'est pas qu'elle va impulser, ce n'est pas qu'ils vont inspirer l'Africain, mais plutôt que l'Africain va retrouver son rêve, le récit qui existait dans les années 60, au moment où on avait des leaders africains qui se mettaient ensemble pour parler de la mise en place en 1963 de l'organisation de l'unité africaine, n'est-ce pas? Donc le rêve a toujours été là, un rêve qui a été communiqué par plusieurs moyens, à travers des messages, des discours, des chansons, je me rappelle de communauté de l'Afrique de l'Est. Il y avait une pléthore, en fait, de références linguistiques, artistiques, politiques sur justement ce concept de panafricanisme. Maintenant, il y en a de moins en moins, pour une raison qui est très simple, c'est que l'État africain a changé, ce qui fait que l'État africain, aujourd'hui, qui est beaucoup plus autoritaire, qui ramène un récit assez particulier, de plus en plus clair, de dire le développement ne va pas de pair avec le développement, la promotion des droits de l'homme, qui est un discours, professeur Mbauche parlait de la Chine, par exemple, de l'émergence de la Chine, qui renforce et qui encourage ce genre de discours. En même temps, justement, nous faisons affaire à une population, encore une démographie qui change. Il y a un activisme numérique de plus en plus élaboré, de plus en plus sophistiqué. Les médias changent maintenant. Les journalistes maintenant sont traités par les leaders africains comme des ennemis à abattre. Donc, ce qui se passe, c'est que le Black Lives Matter, ce ne sera pas nécessairement au niveau de l'idée du panafricanisme qui va inspirer, mais c'est plutôt au niveau de l'organisation, de toutes ces, par rapport à ces stratégies de fundraising, de communication, d'avoir ce leadership qui n'est pas là, qui n'est pas organisé, mais qui est assez efficace sur le terrain. Voilà, c'est ce que je dirais. Je dirais que c'est plus au niveau de l'architecture, de la machine que Black Lives Matter a mise en place, qui peut influer et inspirer les autres mouvements, les mouvements sociaux du continent.
Professeur Mbauche, le durcissement des régimes constitue la crise de la domination en Afrique. Certains estiment que le colon noir a remplacé le colon blanc. Comment établir les rapports de force pour aboutir à cette décolonisation afro-africaine?
Je pense que d'une part, il y a certes cette sorte de découplage de l'idéal panafricaniste par rapport à ce qu'on peut appeler le réel politique, mais effectivement, les dérives autoritaires des États africains qui de plus en plus se réfugient derrière une sorte de paravent électoraliste où il suffit de manipuler les cartes électorales, les processus électoraux, de voter de nouvelles constitutions qui arrangent, qui permettent un troisième mandat, qui permettent donc de restreindre le champ de la compétition politique et doubler effectivement par une répression physique, policière, de la liberté d'expression et de la liberté d'organisation, effectivement. Mais le problème de fond, c'est que, comme je l'ai dit, les réseaux sociaux sont transnationaux maintenant. Les gens peuvent effectivement s'inspirer de Black Lives Matter en Afrique et se rendre compte qu'en fait, il y a bien une possibilité de s'organiser et de faire du bruit, de se faire entendre plus que peut-être le nombre de personnes qui seraient impliquées dans ce genre d'action et d'activité. On voit cela déjà dans beaucoup de pays africains. Et je pense qu'il y a aussi effectivement une sorte de mort de l'idéologie panafricaniste, mais elle va revenir, elle va renaître de ses cendres, un peu comme le phénix. Cette idéologie s'est un peu essorée, en particulier lorsqu'elle a achevé sa grande victoire de l'élimination de l'apartheid. Donc, en fait, beaucoup pensaient que tout ce qui était possible de faire a été fait. Et donc, les États africains se sont recroquevillés sur des processus électoraux vides de sens, qui sont formels mais qui ne sont pas fondamentaux pour permettre l'expression populaire réelle. Et d'autre part, les impératifs de sécurité leur donnent des prétextes d'une certaine façon pour agir de la manière dont ces régimes agissent. Mais en face, il y a une jeunesse qui est au courant de ce qui se passe ailleurs. Et ce qui n'est pas possible de faire aux États-Unis, en particulier la répression policière contre Black Lives Matter, la mise en question de l'organisation judiciaire aux États-Unis qui fonctionne un peu comme les slave patrol, donc les patrouilles pour récupérer les esclaves qui est à l'origine de la force de police aux États-Unis. De la même façon, en Afrique, les jeunes sont en train de protester contre les formes de contrôle, par exemple la police qui fonctionne sur des modes coloniaux, donc une violence policière qui fondamentalement a été héritée de la violence colonialiste. Et cette génération n'a jamais connu la colonisation, ne peut pas accepter que la référence soit que dans le passé c'était pire, maintenant c'est un peu mieux, vous avez un peu plus de démocratie, donc contentez-vous de ça. Non, cela ne va pas passer. Et donc, ce qui va se passer, c'est une plus forte mobilisation de la société civile. La société civile africaine est en montée de puissance. Elle ne stagne pas, comme la société civile américaine a toujours été en montée de puissance. Elle a peut-être un tout petit peu stationné en quelque sorte, en particulier sous l'ère Clinton et Bush, mais elle est en train de revenir. Et je pense que ces mouvements vont aussi se supporter les uns les autres. Et donc, je pense que c'est une base, c'est une raison pour être optimiste.
Karine, ces différentes contestations qui sont souvent réprimées dans le sang en Afrique, est-ce qu'il y a moyen de les contenir?
Ok, je vais essayer d'y répondre très rapidement. Albert Camus, hein, qui a déclaré une fois qu'il fallait d'abord la justice et que pour la liberté, on verrait après. Comme si des esclaves ne pouvaient jamais espérer obtenir la justice. C'est une citation que j'aime beaucoup parce qu'en fait, là, elle présente vraiment la problématique du continent aujourd'hui. Il faut d'abord vider ce discours. Il faut vraiment complètement faire fi du discours de plusieurs leaders africains, ce discours du développement et du progrès versus les droits de l'homme. Parce que c'est le même discours, il faut le leur dire, c'est le même discours civilisateur du colon. Parce que le colon, quand il est arrivé, il n'est pas venu pour faire du mal. Il disait qu'il venait pour justement amener ce progrès et ce développement. Et c'est ce que le leader africain fait aujourd'hui. Et pour cela, il fait exactement ce que le colon faisait. C'est vraiment réprimé dans le sang. C'est utiliser une violence phénoménale pour justement commander et arriver à ses fins. Bref, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a trois réponses qui sont en train de se mettre en place en Afrique. Il y a d'abord la réponse de la rue. C'est le Ballet Citoyen, c'est Yanamar, c'est Sindou Mouja au Burundi, c'est Atabane au Soudan, etc. Il y a une réponse doctrinale et jurisprudentielle qui démontre la réaction de certaines institutions africaines régionales des droits de l'homme. Et là, je parle, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il y a des réponses qu'elles ont offertes. Il y a des principes sur les droits de l'homme. On parle de Covid-19, il faut juste nous informer un petit peu, mais il y a des choses magnifiques, il y a une jurisprudence qui a été développée par ces mécanismes africains. La troisième réponse, c'est la réponse des activistes des droits de l'homme et des organisations comme Human Rights Watch. La société civile, comme professeur Mbodj l'a expliqué, il y a un plaidoyer politique qui a commencé dans les années 90, qui continue jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rallier ces trois. Il faut rallier les actions jurisprudentielles, des actions de plaidoyer, des actions de la rue. Il faut un activisme diplomatique et politique qui existait dans les années 90 quand on avait par exemple un président comme Obasanjo ou Thabo Mbeki qui pouvait s'asseoir avec des leaders de la société civile africaine. On n'en a plus aujourd'hui. Il faut redynamiser ça. Et je termine en disant, les États-Unis, ce n'est pas le continent africain. Ce n'est pas les 55 pays. C'est différent. Il y a un contexte différent. Et ce contexte, c'est justement cet activisme diplomatique et politique que nos sociétés civiles africaines ont développé depuis une trentaine d'années. Et qu'il faut redynamiser et qu'il faut réutiliser aujourd'hui plus qu'avant. Je pense que je vais m'arrêter ici, sinon je pourrais continuer. Hein.
Nous arrivons au terme de cette édition de l'Amérique et vous, Karine Kaneza Nanturia, merci beaucoup pour votre contribution.
Merci pour m'avoir invité.
Je rappelle que vous êtes directrice à Human Rights Watch en charge du plaidoyer en Afrique. Merci à Mohamed Mbodj pour votre participation dans cette émission.
Ce fut mon plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité.
Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire à Manhattanville College à New York. Merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de cette édition de l'Amérique et vous. Lionel Lunani Lagahima a assuré la mise en onde. Eric Manelakis a été avec vous à la présentation. Je vous souhaite un excellent week-end. À la prochaine.